Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Et puis, puisque nous sommes au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse, chères auditrices, chers auditeurs, tous mes meilleurs voeux de joie et de bonheur. Bonheur, joie, confiance, félicité, optimisme, progrès. Tous ces mots positifs que l'on entend beaucoup et souvent en début de chaque année vont nous accompagner tout au long de cette première émission de janvier. Et de l'optimisme, il en faut, il va nous en falloir beaucoup pour affronter le monde tel que nous le connaissons et que nous décryptons souvent dans cette émission. Et d'optimisme précisément, il va en être largement question dans l'émission de ce jour puisque nous allons nous employer à lutter contre beaucoup de nos mauvaises tendances consistant souvent à voir le verre à moitié vide. On attribue cette phrase mêlant optimisme et pessimisme à Shimon Peres, prix Nobel de la paix en 94, négociateur, on s'en souvient, des accords israélo-palestiniens d'Oslo. Il disait « À terme, l'optimiste et le pessimiste connaîtront tous les deux la même mort, mais ils n'auront pas eu la même vie. Le monde tel qu'il est va-t-il plus mal? Le monde tel que nous le fréquentons n'est-il finalement pas si cruel qu'on veut bien nous le dire ?» nous le montrer, bref, et en ce début d'année 2026, il nous faut reprendre notre souffle, faire preuve d'optimisme pour affronter les 12 prochains mois qui s'annoncent. En attendant, c'est parti pour cette 61e émission, larguons les amarres et voguons cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Eddy Fougier.
Bonjour.
Et bienvenue au micro de Complètement à l'Ouest. Pour vous présenter brièvement, vous êtes politologue, chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, école que je connais bien, ainsi qu'à Audencia Business School à Nantes et également à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes par ailleurs le fondateur de l'Observatoire du Positif, premier think tank du positif, comme son nom l'indique. Il s'agit d'un outil de veille et d'analyse de tout ce qui est lié à l'optimisme. Alors, Eddy Fougier, vous venez de publier aux éditions de l'Aube ce petit ouvrage au titre un peu énigmatique, Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal, avec ce sous-titre Le fléau du pessimisme pour la démocratie. Et c'est bien sûr de ce livre récemment sorti dont nous allons parler tout au long de cet entretien. Mais comme il est tradition, je vous propose que nous commencions par un court extrait sonore afin de se mettre dans l'ambiance du thème de cette émission. Et avec cet extrait-là, nous allons parler de confiance, nous allons parler de joie, nous allons parler d'optimisme. On l'écoute.
Vous parlez en effet du bonheur et du malheur de vivre. Eh bien justement, une statistique vient de paraître avec un sondage sur des dizaines de milliers de gens portant sur cette chose étrange et difficile à définir qu'on appelle le bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux, demandait-on aux gens qui étaient sondés. Eh bien, les gens s'attendaient à le chauffage, l'alimentation, l'argent, le confort, etc. Pas du tout. Ce qui est venu en tête pour rendre heureux les gens qui étaient interrogés, c'était avoir retour de soi quelqu'un de confiance. Donc la confiance est d'une certaine manière une des...
Le premier élément du bonheur.
Du bonheur, absolument. Alors maintenant que j'ai défini la statistique, je vais vous faire une confidence. D'ailleurs, je ne fais de confidence qu'en des gens à qui j'ai confiance.
Alors vous avez peut-être reconnu la voix un peu rocailleuse, typique du sud-ouest, du très regretté philosophe Michel Serres. C'est un extrait en date du 19 novembre 2017, lorsque Michel Serres était toutes les semaines à l'antenne, en duo avec les journalistes Michel Polaco, sur France Info, dans des pastilles de quelques minutes intitulées « Le sens de l'info ». Et dans cette émission, consacrée à l'optimisme, à la confiance, nous avons entendu le philosophe nous dire que la confiance est le premier élément du bonheur. Ce qui m'amène à ma première question, en lien direct avec les thèmes que vous abordez dans votre livre, à savoir le bonheur, l'optimisme et leur contraire, le malheur, la nervosité, le pessimisme. Le titre de votre livre, je le rappelle, c'est « Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ?» Question très directe que je vous pose, le monde va-t-il vraiment si mal au point que nous n'avons plus confiance et que nous sommes de plus en plus pessimistes, pour ne pas dire de plus en plus malheureux? Ou bien finalement, tout cela n'est-il qu'un effet d'optique qu'en réalité notre monde, en ce début de 21e siècle, n'est ni plus mal, ni moins bon, ni meilleur, ni pire que celui du ou des siècles précédents?
Merci déjà pour cette question-là. Elle est assez complexe, c'est-à-dire est-ce que le monde va de plus en plus mal? Déjà, ce n'est pas le thème du livre. Mmh. Je n'essaie pas de répondre à cette question. Et je dirais que d'un certain point de vue, on peut répondre oui, si on est ukrainien, si on est Gazaoui, si on est yéménite, si on est soudanais, si on est du Kivu en RDC, si on est en Éthiopie ou dans d'autres pays, on peut dire que le monde va de plus en plus mal, ça c'est certain. Mais par d'autres aspects, on s'aperçoit, si on élargit le spectre, si on a un regard un petit peu plus, je dirais, réaliste, en voyant aussi ce qui va bien, ce qui s'améliore, ce qui peut être source d'espoir, on peut considérer que, par certains aspects, on n'a jamais été aussi bien, on n'a jamais été aussi riche globalement, on n'a jamais été autant en bonne santé, avec une espérance de vie qui n'a jamais été aussi élevée, on n'a jamais eu, les enfants n'ont jamais autant survécu, on n'a jamais été autant informé, autant, avec autant d'accès à la communication, on n'a jamais été autant éduqué. Donc il y a ces deux dimensions. Et ces deux dimensions existent, et il n'y a pas à choisir entre le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, il faut tenir compte de cette complexité. Alors pourquoi est-ce qu'on a tendance à penser que le monde va de plus en plus mal? Mais et ça c'est vraiment l'objet du livre, il y a un certain nombre d'acteurs, il y a un certain nombre de mécanismes, il y a un certain nombre d'éléments, notamment notre cerveau, qui vont nous amener à penser effectivement que le monde va de plus en plus mal. Prenons quelques exemples. Les médias, alors je n'ai rien contre les médias, j'enseigne dans une école de journalisme depuis des années, mais effectivement, les médias vont s'intéresser à un événement à partir du moment où il y a une rupture de la normalité. Un avion qui atterrit, un train qui arrive à l'heure, ça n'est pas un sujet qui va intéresser les médias. Même chose pour les réseaux sociaux, on sait très bien que si on annonce des bonnes nouvelles, je le fais régulièrement, ça n'aura pas beaucoup d'écho. Si on est dans la polémique, sinon on est dans le clash, dans le trash, là ça va avoir de l'écho. Même chose, si on est une ONG, si on est même un consultant, on va avoir une entreprise en disant oh, « ça va ». Tout va bien finalement. L'entreprise ne va pas vous commander une étude, vous demander des recommandations. Donc, même chose quand on est un homme politique, même chose quand on est un éditeur. Avoir des bonnes nouvelles, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est une bonne nouvelle pour l'éditeur. Donc, on est tous un peu prisonniers de ça et notre cerveau va nous inciter à regarder ce qui ne va pas nécessairement très bien. Et donc, tout ça fait que, sans doute, notre regard est beaucoup plus sombre que ce que l'on pourrait avoir si on analysait ça de façon, cette réalité, de façon un petit peu plus froide, un peu plus neutre.
Vous écrivez, c'est dès l'introduction de votre livre, que le pessimisme est prédominant dans les pays occidentaux et pas uniquement en France, tandis que dans les pays dits émergents, écrivez-vous, ceux-ci apparaissent comme plutôt optimistes. Pourquoi est-ce que les pays non émergents, autrement dit les plus anciens pays tels que la France et d'autres, seraient-ils pessimistes et les autres, les pays émergents, optimistes? Est-ce que on doit expier un quelconque péché pour cette faute-là?
Alors, quand je parle d'optimisme ou de pessimisme, en l'occurrence, ce n'est pas de l'optimisme du pessimisme personnel. C'est comment est-ce que l'on voit la situation du pays, comment est-ce que l'on voit cette situation évoluer et comment on pense que les générations futures vont vivre par rapport aux générations actuelles. C'est ça, en général, comme question. Et là, c'est malheureusement pas très compliqué. On est sur des dimensions largement matérielles. Il suffit de voir l'évolution du PIB par habitant, de l'évolution de mesure de la richesse et de l'enrichissement individuel et collectif, premièrement. Et deuxièmement, ce qui compte, et là c'est l'aspect politologue en moi qui réagit, ce sont les perceptions. Et effectivement, quelquefois, on voit, je le mentionne dans le livre, notamment à propos des États-Unis, une déconnexion aujourd'hui entre les perceptions et la réalité de l'évolution économique. Donc, je dirais, s'il y a une explication à donner sur l'évolution du pessimisme et de l'optimisme entre les pays riches et les pays émergents, c'est principalement autour du taux de croissance. J'en veux pour preuve aussi qu'il y a une étude récente qui a montré qu'en gros, il y avait un lien, si ce n'est une corrélation, entre l'évolution du PIB par habitant, la croissance matérielle et la confiance vis-à-vis du gouvernement. Donc, on est dans quelque chose d'assez simple, finalement. Après, on peut rajouter à cela des dimensions culturelles, des dimensions, le sentiment de déclin dans les pays riches, etc. etc. Mais je pense qu'on est sur des dimensions bassement matérielles.
Alors, on évoquait il y a quelques instants le fait que les pays les plus développés étaient par tendance les pays les plus pessimistes. Pourtant, il y en a un peu moins de 3 heures d'avion de Paris, qui pour la 8e année consécutive maintient sa place dans les pays les plus heureux du monde. Et je vous propose juste d'écouter ce court extrait et on va d'y réagir juste après.
Le soleil printanier se montre enfin et les rennes sortent du bois. À l'approche de l'équinoxe, pour la 8e année d'affilée, la Finlande se coiffe de la couronne du pays le plus heureux au monde.
Les Finlandais sont relativement satisfaits de leur vie, surtout parce que nous avons une société qui fonctionne plutôt bien, une démocratie aussi. Nous avons des élections libres, la liberté d'expression, de faibles niveaux de corruption. Tous ces éléments contribuent à des niveaux plus élevés de bien-être.
Liberté publique, État-providence, redistribution des richesses, tout ceci explique cela. Mais il y a en Finlande un autre élément que les étrangers perçoivent rapidement.
Venant d'Angleterre, ce qui me frappe le plus en Finlande, c'est l'importance accordée à la nature. Il semble que tout le monde soit beaucoup plus en contact avec la nature.
Eh bien, je crois que surtout maintenant que le soleil brille, la nature est un élément important pour expliquer ce bonheur.
Comme souvent, les pays nordiques occupent les premières places des pays les plus heureux dans ce classement qui se base sur une moyenne sur 3 ans d'évaluation personnelle ainsi que sur le PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité ou la corruption.
Alors, on a entendu cet exemple finlandais. On pourrait citer quelque part ailleurs aussi le Bhoutan qui est très connu comme étant à l'autre bout du monde un pays prétendument heureux. On citait parmi les éléments propres à la mesure du bonheur en Finlande, la nature, la démocratie, l'anticorruption, bien sûr tout ce que vous évoquiez, le social, l'espérance de vie. Comment réagir sur cet exemple finlandais qui est un pays développé, un vieux pays qui est pourtant l'un des plus heureux pays au monde?
Quand on regarde, alors déjà, sur la mesure du bonheur, c'est toujours délicat. On est sur beaucoup d'éléments
subjectifs.
Et j'ai vu d'autres études qui montraient que la situation était peut-être un peu plus complexe. Il n'empêche que quand on regarde sur, par exemple, la stabilité des États, sur les systèmes de protection sociale, sur le niveau de vie, sur le degré de démocratie, sur le degré de paix, de liberté,
et de confiance,
et de confiance, y compris envers les médias, par exemple, on voit que la Scandinavie, les États scandinaves, Finlande, mais pas que, le Danemark, la Suède, la Norvège, arrivent très largement en tête. Donc, il y a effectivement, sans doute, une dimension qui est propre à la Scandinavie, c'est au-delà de la liberté, au-delà du bien-être matériel, il y a aussi cette aspiration à une forme de sécurité, qui soit à la fois économique et sociale, cette aspiration à une égalité qui n'existe peut-être pas dans certains pays comme les États-Unis, où on voit bien que en termes d'inégalité, en termes d'espérance de vie, en termes de disparité entre les différentes catégories sociales, il y a beaucoup de divergences et en termes de bien-être, les États-Unis sont un peu à la traîne. Donc c'est un ensemble d'éléments. Alors il y a la question que vous ne me posez pas, mais qui est toujours posée, à savoir en ce qui concerne la France, parce que effectivement
on y viendra sur la France, mais allons-y quand même, mais on y viendra.
Malgré tout,
c'est prévu.
On est quand même toujours un peu en queue de peloton. Alors, je ne reviens pas sur le cliché, cette enquête où la France était derrière l'Afghanistan et l'Irak, mais il y a un petit malheur français. Mais
on va le découvrir dans quelques instants. Je voudrais revenir sur une autre partie de votre livre dans lequel vous, qui a trait à ceux qui entretiennent cette vision décliniste du monde. Ça me fait penser un peu au livre Les ingénieurs du chaos, là, de Giuliano d'Ampoli. Vous n'employez pas ce terme d'ingénieurs du chaos, vous dites des conspirateurs du malheur ou du malheur. Qui sont ces conspirateurs du malheur? Comment est-ce qu'ils agissent? Comment les repérer? Comment les combattre?
Alors, par-delà l'expression qui peut être volontairement polémique, mon idée était effectivement de voir non pas nécessairement des catégories ou des individus qui sont mal intentionnés, mais qui, je dirais, dans leur logique systémique, sont dans une volonté de mettre l'accent sur ce qui est sombre, ce qui ne va pas, parce qu'ils y ont intérêt d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, vous êtes une ONG. environnementaliste, par exemple, et vous voulez faire du fundraising.
Lever des fonds.
Lever des fonds, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas dire « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Vous allez plutôt mettre l'accent sur un certain nombre de catastrophes. C'est la même chose pour l'humanité.
Oui, mais c'est une réalité.
C'est une réalité. Mais vous pouvez aussi montrer, en tant qu'ONG, tout le bienfait que vous apportez sur le terrain. Donc, il y a un angle qui est choisi. Même chose si vous êtes un homme ou une femme politique, vous allez montrer tout, en général, si vous êtes dans l'opposition plutôt, tous les méfaits de la politique mise en place, etc., etc. Donc, et alors, certains vont même rationaliser tout ça à travers, par exemple, le concept de pédagogie de la catastrophe. En considérant...
Qu'est-ce que c'est ?
Notamment du côté écologiste, que c'est en montrant les risques, en montrant la gravité de la situation, que ça va générer un éveil, que ça va générer une prise de conscience et donc des actes. On sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Donc, plus les ingénieurs du chaos, effectivement, dont vous avez parlé, qui sont plutôt de l'autre côté du spectre politique, qui visent à, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, à bordéliser le débat, à faire en sorte que on met l'accent sur les dissensions, sur les ressentiments, les peurs, les colères. Et tout ça fait qu'effectivement, notre perception de la réalité, notamment par rapport à ce bruit médiatique ou sur les réseaux sociaux ou dans les débats politiques, est largement déconnectée de la réalité. Et on voit bien, d'ailleurs, qu'une partie de la population ne s'informe plus. Ça, c'est très grave. J'y fais référence dans le livre. Parce que ce bruit est trop anxiogène. Et ça, c'est dans les discussions que l'on a maintenant à la machine à café, on voit bien que beaucoup de gens ne veulent plus s'informer parce que c'est trop stressant, parce que ce bruit est trop agressif. Je dirais, c'est difficile de lutter contre ça, mais il y a des moyens malgré tout de reprendre un peu le contrôle, notamment sur sa façon de s'informer.
Et comment justement les repérer alors ces conspirateurs du malheur ? Est-ce que à travers la description que vous en faites et qu'on a bien entendu et écouté, est-ce qu'il est facile de est-ce qu'un homme politique ou une femme politique systématiquement doit être entre guillemets tagué, flagué conspirateur du malheur ? Comment repérer, je dirais, les bons de ceux qui veulent semer le chaos ? Ou en tout cas faire œuvre de pessimisme.
Le bon conspirateur et le mauvais conspirateur. Moi, ce que je fais, moi, à titre personnel, c'est effectivement d'essayer d'élargir le spectre et de voir également des informations, par exemple, ou des tendances ou des évolutions qui sont positives. Si on écoute quelqu'un comme Steven Pinker qui a écrit beaucoup de livres sur les progrès, il va vous dire regardez les données plutôt que CNN. Et donc c'est quelque chose que j'essaie de cultiver, c'est-à-dire d'élargir aussi les sources d'information et s'intéresser aux tendances de fond plutôt que à la dernière déclaration, à la dernière polémique, voire au dernier sondage qui fait l'objet de discussions et de controverses sur les médias ou les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi une discipline à avoir parce que c'est trop facile et très facile d'être exposé à ce type d'informations et sans nécessairement qu'on ait le temps ou l'envie d'approfondir un petit peu. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire aussi à travers, vous l'avez mentionné, l'Observatoire du positif, où j'essaie de publier maintenant depuis plus de 4 ans une information positive par jour.
Vous en trouvez ? Il y en a ?
Alors ça, c'est tous les jours. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi une des questions que l'on me pose. On a, à tort, à mon avis... pour moi, il y a deux éléments que l'on doit remettre en cause. Le premier, c'est de se dire, si je suis réaliste, je suis forcément pessimiste. Et le deuxième, c'est que si je cherche des informations positives, je ne vais pas en trouver parce que c'est tellement rare, les informations ne peuvent être que négatives. Ça n'est pas vrai. J'en suis à un point aujourd'hui où pour moi, les informations positives relèvent de l'abondance. Et j'en ai tellement que je sélectionne un dixième à peu près de ces informations. Donc, il y en a beaucoup. Il faut juste savoir les chercher, les trouver et les identifier.
Alors, on va changer un peu les idées en marquant une pause musicale avec l'écoute d'un morceau que vous avez choisi. Et pour dire les choses, vous avez hésité entre la BO du film « L'aile ou la cuisse » de Vladimir Kosma et le fameux « Don't Stop Me Now » de Queen. Pourquoi ce choix entre ces deux musiques ? Malheureusement, on va devoir faire un choix. Je le connais déjà, on va écouter le morceau retenu dans quelques secondes. Et pourquoi ce choix entre deux musiques diamétralement opposées ?
Alors, le morceau de Queen, tout simplement, parce qu'il y a une étude très sérieuse, enfin, je ne sais pas si c'est sérieux, la thématique n'est pas sérieuse, mais l'étude l'est, scientifique, qui a essayé d'évaluer quel morceau musical suscitait le plus d'entrain, le plus de bonheur chez les personnes, et le morceau de Queen est arrivé en tête, notamment lié au rythme, en fait, de la chanson. Alors, l'autre, la BO de Leluhur Quiz, pourquoi ? Parce que, alors, il y a un petit côté Madeleine de Proust, pour les personnes qui nous écoutent d'une certaine génération. Mais surtout, pour moi, c'est effectivement 1976, c'est sans doute le basculement. C'est, on commence à
penser parce que c'est la crise pétrolière, le début du chômage.
Il y a le choc pétrolier, 73-74, la récession de 75, et on commence à considérer que sans doute que les 30 glorieuses sont en train de se terminer, qu'on est en train de passer à autre chose. Et L'aile ou la cuisse, c'est cette musique assez enjouée, et sans doute ce moment, ce dernier moment non pas d'ivresse collective, mais de joie collective ou de naïveté peut-être à l'époque. Et donc c'est pour ça, c'est cette étape un
d'accord
petit peu qui est marquée.
Mais je comprends maintenant votre hésitation et votre choix. On va écouter Don't Stop Me Now de Queen. C'est parti. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Elle est de retour en studio avec Eddie Fougier qui publie « Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ? Le fléau du pessimisme pour la démocratie » et c'est aux éditions de l'Aube. Votre livre n'est pas naïvement optimiste, il plaide pour une cure de détox du négatif. Alors vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais à quoi ressemble, doit ressembler concrètement cette cure, à la fois pour un individu, pour une société ? Vous avez dit qu'il faut rechercher les informations positives, ok, donc certes. Où les trouver ? Comment s'y prend-on ? Ça demande du temps, ça demande des sources d'informations. Concrètement, comment se repérer dans cette jungle du positif, si je puis dire ?
Ça sera l'objet du prochain livre.
Allez, dévoile-nous quelques pages.
Alors, plus sérieusement, je pense qu'au-delà, et je vais répondre à votre question, au-delà effectivement de la recherche d'informations, ce que je voulais faire à travers ce livre, c'est qu'il y ait une prise de conscience, de façon très modeste, de notre exposition systématique à ces informations et à ce bruit ambiant, encore une fois, particulièrement anxiogène et souvent déconnecté de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle je mentionne un certain nombre d'enquêtes d'opinion assez édifiantes, dont les résultats sont assez édifiants, qui montrent qu'il y a une déconnexion entre ce que les gens ont en tête et la réalité. On pourra y revenir sans doute tout à l'heure. Alors, comment on fait pour trouver des informations positives?
Pour faire cette cure de détox positive.
Oui, mais j'essaie de le faire moi-même.
Vous l'avez dit, on l'a bien compris.
Et en fait, le déclic, ça a été pendant le confinement où je me suis aperçu, à travers mes activités, que... et en reprenant l'image des émissions de gaz à effet de serre, que mes émissions étaient majoritairement négatives. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de planter des arbres pour compenser ces émissions négatives par des émissions plus positives, avec des informations, des analyses davantage positives. Et donc, je pense qu'il y a déjà, encore une fois, une question de regard à avoir, de se dire... comme je l'ai dit tout à l'heure, que le fait d'être réaliste, ça n'est pas automatiquement être pessimiste. C'est de voir la réalité dans sa complexité et de voir aussi qu'il y a des choses qui vont bien, de voir aussi qu'il y a des évolutions positives. Bon. Ensuite, il faut sortir de cette idée que j'ai mentionnée également tout à l'heure, selon laquelle les informations sont naturellement, spontanément négative et qu'il n'y a jamais d'informations positives. Ça n'est pas vrai. Regardons dans la presse quotidienne régionale, il y a beaucoup d'informations.
Le tissu associatif français.
Qui sont effectivement plutôt positives, l'inauguration de telle ou telle salle de MJC, etc. etc. Enfin, bon, il y a des initiatives. On peut voir, par exemple, dans la presse économique, dans la rubrique innovation, qu'il se passe beaucoup de choses. Quand on regarde un certain nombre de données sur les créations d'entreprises, les créations d'associations, les engagements des Français, le nombre d'aidants en France, le nombre de bénévoles. Et c'est ce que je défendais dans le livre précédent, d'ailleurs. C'est cette idée de révolution silencieuse, un petit peu, que l'on voit en France ou ailleurs, à savoir le fait qu'on n'attend plus, souvent par dépit, la solution d'en haut. On retrousse nous-mêmes nos manches à un échelon individuel, à l'échelon de collectif, à l'échelon d'associations, d'entreprises, de start-up, de filières, pour essayer de résoudre les problèmes. Et ça existe. Alors, les informations sont éparses, et j'essaie modestement, avec d'autres, je ne suis pas le seul, d'en faire la recension de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, mais c'est quelque chose qui existe, et c'est quelque chose qui correspond à la réalité, et qui correspond aussi à des informations. C'est pour ça que je ne veux pas, encore une fois, qu'on assimile l'information à uniquement ce qui est négatif, et le réalisme au pessimisme.
Est-ce qu'il existe un média, peut-être qu'il y en a eu par le passé, 100% positif, est-ce que ça existe ou ça existait?
Alors, il y a eu des tentatives, mais qui n'ont pas duré très longtemps et qui n'ont pas été très fructueuses. Alors, je dirais, il y a plusieurs éléments. Le premier, il y a des branches du journalisme aujourd'hui qui ont décidé d'évoluer. On appelle ça le journalisme de solution ou le journalisme constructif, c'est-à-dire un journalisme. Il y a des enseignements là-dessus, il y a des spécialisations en la matière, à savoir le fait que l'on ne s'arrête pas uniquement au constat sur ce qui va mal ou sur ce qui se dégrade, mais on essaie de voir aussi et de traiter les solutions. Donc, journalisme de solution. Et puis, il y a un certain nombre de médias spécialisés, notamment qui ont émergé avec la pandémie, qui ne traitent que d'informations positives. Alors, ils sont assez peu connus.
Donc, ils existent.
Oui, le plus connu étant le Média Positif. Si on est parisien, on voit même la RATP diffuse des informations du Média Positif. Mais il y en a d'autres. Et à l'échelon international, il y en a pas mal qui sont soit gratuits, soit sur abonnement, mais ce ne sont pas des médias très grand public, ce ne sont pas des médias qui ont une diffusion énorme, mais qui peuvent être même sous format papier. En Angleterre, il y a un média qui est sous la forme d'un magazine qui s'appelle Positive New. Donc ça existe.
Alors, on abordait le cas de la France, et en effet, il y a quelques semaines, c'était fin octobre, est parue l'étude annuelle sur les fractures françaises, étude réalisée par Ipsos auprès de 3000 personnes pour déterminer comment se porte la société française. Et finalement, pour faire simple, la synthèse de cette étude montre deux enseignements très clairs qui se dégagent. Premièrement, on en a abondamment parlé, le déclinisme connaît de nouveau une hausse cette année, en tout cas en 2025, à un niveau record. Néanmoins, le sentiment que ce déclin est irréversible recule légèrement, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et deuxième point, la quasi-totalité des Français, en tout cas interrogés, les 3000, sont mécontents vis-à-vis de la situation du pays, et plus de 4 sur 10 sont dans un état d'esprit de contestation et de colère. Si on devait résumer les choses, on voit que notre société, à l'aune de cette étude, est dans un état de nervosité démocratique extrêmement fort. Et j'en reviens à votre livre qui porte ce sous-titre, hein, « Le fléau du pessimisme pour la démocratie ». Vous écrivez que le pessimisme est un poison pour la démocratie, et vous montrez d'ailleurs que les mouvements populistes, les gilets jaunes jusqu'à Donald Trump, s'alimentent de cette sinistrose. Là encore une fois, on en a parlé, mais question très simple et très complexe à résoudre. Comment est-il possible? Comment peut-on lutter contre ce carburant politique du désespoir? Quel antidote démocratique voyez-vous?
Alors, c'est d'autant plus essentiel que, en général, c'est autoréalisateur. Si on se positionne en tant que démocrate américain, en ce début d'année 2026, quasiment un an après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, effectivement, on est dans une situation tellement pessimiste qu'on baisse les bras et c'est autoréalisateur. Mmh.
C'est un cercle vicieux.
On très crée vicieux. La situation qu'on craint. Mmh. Et donc, pour moi, le pessimisme, c'est en grande partie les raisons pour lesquelles je considère que le pessimisme est, et même initialement, là, on a mis fléau, mais initialement, j'avais mis danger pour la démocratie. Parce que tous les mouvements extrémistes exploitent cela, surfent sur ça, qu'ils soient extrémistes de droite ou extrémistes de gauche. Moi, dans une autre vie, j'ai étudié beaucoup de mouvements protestataires qui étaient tous des mouvements catastrophistes, qui annonçaient tous la fin du monde, la fin de la vie sur Terre, du vivant, etc. etc. Donc, c'est une petite musique de moins en moins, de plus en plus audible, qui aboutit à ce que finalement, on ait le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire. On le voit sur le climat aussi, et qu'il suffit de donner les clés à un sauveur qui va arriver avec son bon sens, ses solutions uniques, ses boucs émissaires, sa vision unique de l'origine des problèmes et qui va résoudre à notre place ces problèmes-là. Mmh. Et s'il y a une figure qui est emblématique de cette problématique, c'est bien évidemment Donald Trump, qui a été le parangon de cette vision catastrophiste qui expliquait que les États-Unis s'effondraient, qu'il ne restait plus rien des États-Unis, que grâce à lui, les États-Unis vont aller mieux.
Make America Great
Again.
On va
faire en sorte que les États-Unis redeviennent grands.
MAGA.
Il se présente comme un sauveur. Et c'est quelque chose, effectivement, qui me paraît extrêmement dangereux. Ça n'est pas que du côté des populistes de droite. On le voit aussi du côté des populistes de gauche. Ou d'autres mouvements, par exemple conspirationnistes ou des intégristes religieux. Et ça me semble être particulièrement dommageable parce que ça disqualifie les visions qui misent sur la nuance, la modération, la complexité. Là, on fait appel plutôt à la fois à son ressenti, à son bon sens. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il y avait cette déconnexion entre la perception que l'on a des choses et la réalité. Beaucoup de gens aujourd'hui font plus confiance à leur ressenti plutôt qu'aux chiffres, aux données. Mmh. Et ça, c'est très grave. Beaucoup de gens ne vont plus s'informer parce que c'est trop négatif. Et comment avoir un jugement fondé si vous ne vous informez pas? Et donc, c'est un ensemble qui me semble être particulièrement dommageable pour la démocratie. On sait très bien, beaucoup d'études ont montré les liens entre ce pessimisme et l'évolution des mouvements populistes, ça c'est clair.
On est presque à la fin de cette émission, mais vous citez bien sûr le phénomène d'éco-anxiété qui pousse notamment certains jeunes gens à ne plus vouloir d'enfants. Est-ce que vous estimez que crise politique et crise climatique sont liées et comment on sort de cette impasse-là?
Alors, Moi, je prends très au sérieux l'éco-anxiété. J'ai même écrit une étude sur le sujet. Mais j'élargirai un petit peu cette notion. Pour moi, il y a aujourd'hui une montée en puissance de différentes formes d'anxiété en lien avec les réactions que l'on peut avoir vis-à-vis d'événements ou de tendances collectives. On voit bien, il y a aujourd'hui une news anxiety. Je suis désolé pour l'expression, mais il y a une anxiété liée aux médias.
L'information.
À l'information. Il y a également, et les Américains l'ont mis en avant, mais c'est tout à fait visible en France depuis 2024, une démo-anxiété ou une anxiété liée à l'évolution du débat politique. Aujourd'hui, à 19h59, avant qu'on voit les résultats électoraux, beaucoup ont une boule au ventre. C'est quelque chose qui relève d'une anxiété. Donc, par-delà l'éco-anxiété, il y a ces différents éléments, c'est-à-dire, encore une fois, le sentiment d'être dans une sorte d'impuissance face à des événements qui nous tombent dessus. Et donc, moi, je pense que pour réagir à cela, il y a deux éléments sur lesquels il faut vraiment réfléchir. Le premier, c'est d'essayer de comprendre et d'élargir, encore une fois, la palette des informations. C'est ce qu'on conseille par rapport aux éco-anxieux, de dire aussi, regardons toutes les initiatives, tout ce qui fonctionne, tout ce qui peut être potentiellement source d'espoir. Et le deuxième aspect, et ça vaut pour la politique, ça vaut pour beaucoup d'autres choses, c'est à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut s'engager. Il faut se battre, entre guillemets, pour défendre une cause. C'est le seul moyen de sortir de ce sentiment d'impuissance et de passivité.
Je le disais, on est quasiment au bout de cette émission et je voudrais pas qu'on se quitte, qu'on se quitte sur des notes positives, optimistes. Alors, je vais vous lire quelques citations et vous allez me dire et me commenter celles au singulier ou au pluriel que vous pourriez graver sur le frontispice de l'Observatoire du positif, le think tank du positif que vous avez créé. Première citation. Albert Camus, il disait « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invisible ». Deuxième citation, Vaclav Havel, « L'espoir n'est pas la conviction que quelque chose aura lieu, mais la certitude que cela a un sens, quoi qu'il arrive ». Troisième citation, avant-dernière, Antonio Gramsci, « Allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Et enfin, dernière citation très connue, Mark Twain, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Alors, laquelle de ces citations ou...
Alors, je suis un fan des quatre, mais si je devais retenir une citation, je retiendrais celle de Gramsci.
Allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, c'est un peu de ce que vous disiez en propos de conclusion de votre question, la question que je posais. En effet, engagez-vous. C'est un axe, c'est la manière la plus concrète, tangible de faire en effet bouger les choses. Engagez-vous.
Et sortir de ce sentiment d'impuissance.
Merci beaucoup Eddy Fougier d'avoir accepté de venir en cet début d'année 2026 au micro de Complètement à l'Ouest pour cette 61e émission. Je rappelle que vous venez de publier il y a quelques mois « Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ?» avec ce sous-titre « Le fléau du pessimisme pour la démocratie » c'est paru aux éditions de l'Aube. Alors Complètement à l'Ouest évidemment revient le mois prochain avec un sujet tout autre, quoique déjà un petit peu abordé avec mon invité à l'occasion de la 60e émission, c'était Laetitia Vito qui nous avait parlé d'âge et de travail. J'accueillerai Monique Dagneau qui publie chez Odile Jacob Génération Reset, une enquête très fouillée sur les trentenaires d'aujourd'hui. J'imagine qu'on abordera le thème d'éco-anxiété sur ces fameux millennials ou génération Y pour cette émission. Voilà, comme à mon habitude, évidemment, je les vois en régie. Je remercie nos amis en direction technique, que l'on ne voit jamais, que l'on n'en vend pas. Et si je voulais résumer les choses, je dirais qu'ils font tout et moi je fais le reste. Voilà, tout est à présent dit et selon la formule, il ne nous reste plus qu'à garder le cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Merci beaucoup, à bientôt.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.